toutes et à tous, soyez les bienvenus sur RCFM dans votre émission hebdomadaire sur les livres. Des livres et des gars, ils font du bruit, ils sont là, bonjour, on les applaudit.
Bonjour tout le monde.
Et n'en faisons pas trop.
Bernadette Spagnoli, merci d'être avec nous. Soyez la bienvenue. Vous allez nous parler du livre Le Chef, le roman d'une cuisinière, Marie Ndiaye, que j'aime beaucoup. Vous me faites des surprises comme ça de temps en temps. Hein.
Des bonnes surprises. Hein.
Ben oui. Et puis il y a avec nous la charmante.
Oh, c'est gentil.
La sublimissime. Je suis obligée
on peut dire n'importe quoi.
Vous oui. savez pourquoi? Parce que Bénédicte, c'est bientôt la fin de l'année, et pour un professeur de français,
c'est l'angoisse.
Donc,
c'est le mois de mars.
Hein, ben oui, mais c'est comme on se voit tous les 15 jours, ben oui.
Ça et j'ai pas vite. Le même calendrier.
Attendez, les amis.
Dit-il.
Dans le secondaire, c'est-à-dire fin avril, il n'y a plus personne.
Voilà. À partir du 2 mai,
c'est fini.
J'ai raté ma vie.
Bénédicte, bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour Marie.
Et puis, vous l'avez entendu, puisqu'il parle avant même qu'on le salue, ouais, c'est notre petit chou.
Ça commence fort. Hein.
Bonjour le tonton de Marseille, comment ça va Christophe Laurent?
Très très bien Marie, très très bien.
Vous êtes toujours l'animateur du blog The Killer Inside Me. On peut vous suivre pour les amateurs de polar. Parce que vous fournissez...
Il n'y a rien à faire.
Non mais il n'arrête pas.
Pardon?
Mais enfin, il est journaliste, il travaille quand ce matin ce garçon, il a une profession.
Oui, tout à fait.
Ah, eh ben,
incroyable.
Mais
incroyable.
Vous lisez tout le temps.
Un membre de l'éducation nationale qui m'attaque sur mon emploi du temps.
Bon, et alors là, les auditeurs se demandent pourquoi ils retrouvent enfin leur mari qu'ils avaient perdu durant quelques semaines. Et oui, j'étais morose. Il n'y avait pas cette dynamique, cette énergie dans les précédentes émissions. Parce qu'enfin, j'ai lu un bon livre. Et ça fait du bien. Oh, mais non,
J'avais pas suivi le fil de la pensée.
Eh ben oui.
Mais c'est très très bon.
Haruki Murakami. J'avais jamais lu cet auteur ultra connu qui a été primé comme un fou. Des hommes sans femmes. Il s'agit de
c'est
nouvelles.
C'est votre premier Murakami?
Oui.
Ça alors.
Oh,
la même femme. Vous n'êtes plus la même femme désormais. On a vu cette étincelle dans la vie.
C'est ça. C'est publié chez Belfond et je me suis régalée parce que, comme je le disais aux filles qui sont arrivées bien avant vous à la radio, parce qu'elles sont plus consciencieuses, ces hommes sans femmes, ça pourrait être des femmes sans hommes. Et je me suis complètement identifiée dans toutes ces nouvelles. Et c'est un conteur, ce Haruki Murakami. Il vous prend par la main et il vous entraîne dans des histoires absolument formidables. J'ai adoré. J'espère que c'est le cas des filles, parce que vous n'avez pas eu l'opportunité de le lire, puisque je ne vous l'ai pas prêté.
En même temps, je ne me suis pas précipité, parce que je n'avais lu une fois et ça m'avait suffi.
Et oui, vous n'aviez pas aimé du
Kafka
tout.
Kafka sur
hein.
la plage, bon.
Voilà. Le rivage. Non, sur le rivage, c'est magnifique.
Oui, tout à fait. C'est extrait.
Kafka sur la plage.
Kafka sur le rivage,
C'est somptueux.
Elle va vous mettre un coup de boule, hein. Je vous le dis. Bon, mais de la
en
chance
plus,
de soin.
Le chouchou est mauvais élève. Parce qu'il ne lit pas les livres.
Ça balance. Hein.
Mais on savait qu'il allait l'éviter, celui-ci. Parce qu'on avait ouï dire que justement, il n'avait pas apprécié Kafka sur le rivage.
Non, alors, vos choix actuels. Non,
enfin, outre Kafka.
Vos choix depuis septembre, on ne peut pas dire non plus que je me précipite.
Outre
le
Kafka
lundi soir.
Sur le rivage, il a écrit des dizaines de livres.
Ben oui,
mais c'est vrai. Mais vous avez raison de le souligner. Que nous est-il arrivé? Nos pauvres auditeurs sont encore là et on se demande pourquoi.
Non, mais nous
parce qu'on a fait des
un
choix.
Autre concept, les livres à ne pas lire. Voilà, c'est un concept.
Comment économiser 20 euros cette semaine?
Mais pourquoi au bout de 4 ans, notre expérience devrait être... allez, faites... Elle dit non, Bernadette. Nous sommes...
Elle est en colère.
Non, elle est en colère parce qu'elle vous apprécie, elle ne comprend pas que vous n'ayez pas aimé ce livre. Je me tourne vers vous, tiens Bernadette. Des hommes sans femmes.
Oui.
Ça vous a
qui pourrait être aussi des femmes sans hommes, puisque ça parle de d'amour, de sentiments, de solitude. Moi, au départ, j'ai eu un peu de réticence parce que, en général, je n'aime pas trop la nouvelle. Le genre de la nouvelle, j'aime pas trop.
Et pourquoi puis, parce que vous restez sur votre faim ou...
Parce que j'aime les histoires longues qui durent. Je reste toujours un peu sur ma faim, mais là, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé, en particulier, Scheherazade. L'histoire de cette femme qui va chez cet homme qui est prisonnier, on ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est vraiment prisonnier de droit commun? On ne sait pas.
Est-ce que vous êtes réconcilié un petit peu avec la nouvelle? Parce que c'est le même thème qui est dégagé à travers toutes ces histoires. Est-ce que c'est peut-être pour ça que ça vous a plu?
Voilà. Ouais. Peut-être parce qu'il y a une continuité, effectivement, dans le thème. J'ai adoré le contre-pied de Kafka, justement, puisqu'il raconte un petit peu la métamorphose à l'envers. Voilà, non, j'ai beaucoup aimé.
L'animal qui se transforme en homme. Et non pas l'homme qui se transforme en animal. Et oui, moi je travaille sur les métamorphoses d'Ovide. Merci au professeur de français en ce moment. Je me régale, vraiment. Un extrait, peut-être, que vous avez sélectionné pour nous.
Alors,
tout est beau à lire, hein, honnêtement. Non, mais je vous assure.
Relisez le titre.
Dites rien, c'est un titre d'Hemingway. Ah. Il a pris le titre d'Hemingway.
Oui, parce qu'en plus, il y a plein de références dans le livre, des références aux Beatles, des références au cinéma.
C'est un hommage.
Ouais. Alors, chez certains, ça s'appelle du plagiat, mais chez lui, bien sûr, ce sont des hommages.
Je lis un passage. Allez, je lis un petit passage, Christophe Laurent.
Je suis tout ouïe, Bernadette Spagnol.
Il est très facile de devenir des hommes sans femme. On a juste besoin d'aimer profondément une femme et que celle-ci disparaisse ensuite. En général, comme vous le savez, elles auront astucieusement été amenées par de robustes marins. Ils les auront enjôlées avec de belles paroles et entraînées en un tournement jusqu'à Marseille ou jusqu'en Côte d'Ivoire. Nous ne pouvons presque rien faire face à cela. Il arrive aussi que les marins n'y soient pour rien et qu'elles se suppriment volontairement. Face à cela aussi, nous sommes impuissants et les marins également.
C'est beau. Moi, j'avais choisi le même.
Vieil homme et la mer, c'est...
Oh là là. Et la quatrième de couve, mesdames, la quatrième de couve, qui est un extrait. À ce que je sais, votre épouse était vraiment une femme merveilleuse. Vous devez vous sentir reconnaissant d'avoir vécu presque 20 ans auprès d'une femme comme elle. Je le crois profondément. Néanmoins, vous aurez beau penser que vous avez compris quelqu'un, que vous l'avez aimé, il n'en reste pas moins impossible de voir au plus profond de son cœur. Vous aurez pu vous y efforcer, mais vous n'aurez réussi qu'à vous faire du mal. Vous ne pouvez voir qu'au fond de votre propre cœur, et encore, seulement si vous le voulez vraiment et si vous le faites l'effort d'y parvenir. En fin de compte, notre seule prérogative est d'arriver à nous mettre d'accord avec nous-mêmes, honnêtement, intelligemment. Si nous voulons vraiment voir l'autre, nous n'avons d'autre moyen que de plonger en nous-mêmes. Telle est ma conviction.
On m'a toujours dit que c'était un écrivain pour femmes, pas pour
sexe. C'est quoi un écrivain pour femmes?
C'est quoi un écrivain pour femmes?
Ça ne sont pas des beaux sentiments, parce que justement, il nous dit, donc le titre est clair, hein, des hommes sans femmes, donc ce sont des histoires de solitude, et ne sommes-nous pas tous désespérément seuls, c'est une question qu'il pose. Bon, peut-être pas vous, parce que vous êtes entouré, aimé, adulé, c'est une
dans
chose.
Dans une salle de rédaction chaleureuse.
Et c'est vrai que ce sont des hommes, donc des hommes qui ont été, qui sont sans femme, soit parce qu'ils ont été trompés, abandonnés, ou qu'elles les ont quittés, ou qu'elles ont été, ou même que ces femmes sont fantasmées. Hein, parce que c'est vrai qu'on retrouve tous les thèmes chers à Murakami. Donc, il y a déjà l'importance de la musique, pas dans toutes les nouvelles, mais... Dans une des nouvelles que j'aime particulièrement, il y a ce patron de bar qui tout d'un coup met ses morceaux de jazz. Et celle-ci, je la trouve vraiment très très belle. Vous avez ce goût pour le fantastique et le mystérieux. Et parfois, il y a plein de réponses qu'on attend et qui ne sont pas données. Mais moi, j'aime bien quand
et
on reste finesse. Comme ça un peu sur...
J'ai trouvé que c'était extrêmement fin.
Mais oui, mais c'est-à-dire que... Et même moi, je trouve qu'on entre progressivement dans le recueil. Au début, j'ai dit la première, oui, bon, pas mal, mais bof. Et en fait, progressivement, il crée... tout autour de ces nouvelles, un univers qui a une cohérence, et après, si vous les relisez, elles finissent par se répondre, on retrouve parfois des petites allusions, c'est extrêmement bien construit et pensé, mais sans esbroufe, ça c'est vrai. Et au départ, ces personnages, un peu comme ces nouvelles, on se dit, bon, ils sont peut-être un petit peu lisses, un petit peu fades, et pas du tout, au fur et à mesure, ils gagnent en profondeur, exactement, je trouve, comme le recueil. Et moi, j'aime ces personnages chez Murakami qui sont comme ça, toujours un petit peu comme en dehors de la réalité ou à côté d'une réalité, un peu marginaux. Et c'est vrai que, alors, ils se sentent seuls. Parfois, ils ont l'impression de ne pas être seuls. Et à un moment donné, ils vont quand même dire qu'ils ont tous besoin de ressentir cette étrange chaleur dans le cœur. Alors oui, ce sont des histoires d'amour. Et Murakami nous dit aussi peut-être qu'il n'y a pas d'amour heureux, mais que d'une certaine façon aussi, et ça c'est très romantique, mais au sens 19e du terme, mais que d'un autre côté, on ne peut pas vivre non plus sans amour. Et ce qu'il dit sur l'autre aussi, celui qu'on aime, et qu'il y a dans la quatrième de couverture que vous avez lue, c'est qu'à un moment donné, oui, celui qu'on aime reste de toute façon opaque, mais aussi parce que parfois on n'a peut-être pas le courage de plonger au fond de nous-mêmes et de réfléchir à qui l'on est.
Et puis en écho, tous ces personnages sont connectés. Et alors ça, moi, j'aime beaucoup dans cette écriture. Ils sont connectés au bruit qu'ils entendent, au son.
Une hypersensibilité.
Et qui crée l'équilibre. Oui. Donc même quand vous dites, on a l'impression que les personnages sont lisses, oui. Moi je trouve que grâce tout cet environnement... Ouais.
Et l'histoire de ce médecin.
Oui, puis à chaque fois, ils ont
très cynique, ouais. Qui se dit, bon, les femmes, je les prends.
Le séducteur, j'ai de la chance.
Plusieurs, et puis ouais. Qui...
J'allonge
qui
un peu le laisse, pognon.
Qui se laisse mourir d'amour.
Et c'est vrai que la mélancolie, je trouve qu'il y a chez Murakami, on peut dire que c'est un écrivain de la mélancolie, mais sans que ce soit complètement plombant.
Vous pouvez répéter ce que vous avez dit à Bernadette.
Jean-Marie Rouard.
À la porte.
Oh, pas du tout.
Alors, ça s'appelle « Des hommes sans femmes ». Vous avez sélectionné un extrait, Bénédicte ?
J'avais sélectionné le même.
Ah, le même que et Bernadette.
Oui, parce que voilà, il expliquait à la fois le titre. Mais bon, non, moi, je trouve que c'est très réussi. Et
très belle couverture. Très, très belle couverture avec un chat magnifique en estampe japonaise. Haruki Murakami, « Des hommes sans femmes », c'est publié chez Belfond. Nous vous le conseillons, mais alors, de tout cœur, cette littérature de gonzesse.
Qui finira peut-être un jour par avoir le prix Nobel. Tous les ans, là.
Oui, c'est vrai.
Christophe Laurent serait pas content. Hein.
Non, mais parce que... Alors, vous savez, c'est dommage, parce que moi j'étais persuadée que par le biais de la nouvelle, justement, Christophe aurait été un peu plus séduit que par le roman.
Je pense qu'il n'aurait pas détesté ça. Quand même, si on retrouve les thèmes, ça n'a rien à voir avec Kafka sur le rivage. Et en plus, à chaque fois, il y a ces doubles qui sont complètement farfelus, qui fonctionnent très bien. Hein, la jeune bossue serrurière, etc. La conteuse d'histoire qui sort on ne sait où, et qui est de ce prisonnier dont on ne sait rien. Non, il y a de jolies trouvailles. Et c'est quelqu'un, et c'est ça, et c'est ce qui vous manquait, je pense, Marie, on est d'accord, ça nous a tous fait du bien. C'est quelqu'un qui sait raconter des histoires. Et on attend quand même ça aussi en littérature. Hein.
Merci Bernadette et merci Bénédicte. Christophe Laurent, vous allez parler dans un instant du livre « J'irai mourir sur vos terres ».
C'est l'histoire d'amour.
Le prix Edgar du meilleur roman. Et c'est signé Laurie Roy. Laurie Roy. Et c'est un livre que vous avez apprécié, malgré le fait que ce soit une histoire d'amour. Oui ou non ?
Vous êtes taquine, j'adore ça.
J'ai mis un joli corsage pour vous aujourd'hui.
C'est vrai, c'est resplendissant.
J'espère que vous l'avez remarqué. Allez, on parle de ce livre dans un instant.
Simple touch, and it sets you free. just a simple touch and it can set you free. We don't have to rush when you're
Bon. Bon alors Christophe, Laurent,
il est bougon, il est chafouin.
Vous disiez que vous aviez des amis branchés Japon. Oui, qui disait c'est le moins
c'est le moins japonisant de
le moins japonais des japonais des auteurs japonais Haruki Murakami. Bon ben voilà, nous on a adoré en tout cas et je vous rappelle le titre Des hommes sans femmes, c'est publié chez Belfond. Quant à vous mon cher Christophe, vous nous parlez de Laurie Roy, J'irai mourir sur vos terres et je le rappelle, ce livre a reçu le prix Edgar du meilleur roman. Chouette.
Oui, chouette. Le prix Edgar ce n'est pas rien puisque c'est le prix Edgar Allan Poe. C'est ce qui récompense chaque année aux États-Unis la plus belle œuvre de polar, de thriller, de roman noir.
C'est au Masque, hein, je ne l'ai pas dit, pardon.
Oui, c'est aux éditions du Masque. On avait parlé des éditions du Masque, je crois, il y a un mois pour Blessure, je ne sais plus trop quoi, le livre qui se passait à Boston, qui était remarquable. Là, ça fait un coup double. Donc, je reviens sur le prix Edgar. Le prix Edgar, quand même, si on se rappelle, il y a eu Raymond Chandler qui l'a eu, il y a eu James Lieber qui l'a eu deux fois. Là, j'ai sorti, il y a Elmore Leonard, il y a Rose Thomas. Enfin,
Donc, c'est un prix, oui, qui a de la gueule.
C'est un prix très, très costaud. C'est un prix qui est assez important. Et avec un jury très qualifié, je veux dire, c'est pas un truc entre amis.
Petite question,
oui.
Avant que vous continuiez.
Oui, oui,
vous qui lisez énormément de polars,
oui.
Il vous arrive...
Je sens, je sens la question méchante.
Pas du tout, du tout. D'abord, je n'ai pas une once de méchanceté aujourd'hui, donc je ne vois pas.
Oui.
Est-ce que parfois, un mois ou deux mois après une lecture, il y a certains romans qui se détachent, et vous n'en étiez pas rendu compte sur le moment, et qui vous habitent encore ? Quand on lit beaucoup, beaucoup comme vous, le même genre de...
Vous voulez lire un livre où je serais passé à côté, vous voulez dire
Non, où vous seriez dit, il est super.
Qui a plus d'écho qu'un autre.
Ouais.
Oui, bien sûr. Bien sûr, mais tout ça fait ça.
Est-ce qu'il faut un peu de temps, voilà.
Oui,
je pense que
tout lecteur est un peu comme ça. On a un livre qui revient, on a s'il y a des scènes ou une langue qui vous a marqué, ça revient, hein.
Non, parce que parfois on est très content d'un bouquin et on l'oublie complètement. Oui, vous avez remarqué ça ?
Exactement. Oui, oui, oui. Mais exactement.
Et d'autres d'un coup, et certains restent.
Oui. Ben moi, par exemple, si je peux me permettre, parmi les livres que nous avons lus, ils ne sont pas tous nuls. Bon, le garçon.
C'est vrai, j'avais oublié le garçon.
Moi, j'y repense souvent. Oui,
ouais, c'est vrai, le garçon. Non, c'est vrai. C'est vrai ce que vous dites.
C'était un très bon choix.
Oui, on avait oublié le garçon.
Nous n'avons pas lu que des livres nuls depuis
l'auteur,
le mois de septembre.
L'auteur déjà.
C'est une boutade, Bernadette. Qu'est-ce que vous êtes susceptible.
Je vous en prie, continuez.
Donc, Laurie Roy, un petit peu inconnue au bataillon, je l'avoue, hein, j'avoue mes carences. Elle avait déjà eu un prix Edgar pour un premier roman il y a 3 ans. Et en fait, quand j'ai vu le dossier de près, je me suis dit, c'est pas possible. J'ai dit, il faut absolument que je regarde un petit peu ça de près. Et c'est une histoire encore un petit peu rurale. Il y a un petit peu cette mode du polar rural. Mais là, on n'est pas dans le polar, on est dans le roman noir. Tout commence en 36. Donc, il y a deux sœurs. Et il y en a une qui, vous savez, c'est la campagne, c'est la campagne américaine. Il y a beaucoup de superstitions. Donald Ray Pollock, on avait déjà parlé. Il y a beaucoup de superstitions. Il y a notamment une sœur que l'on suppose un petit peu c'est pas non plus Amityville, mais on la suppose habitée par un esprit. Enfin, elle a une sorte de don, ce qu'ils appellent le don, et elle est pas très, on n'ose pas la fréquenter. Enfin, toujours est-il que cette sœur disparaît avec son petit frère. Quand elle revient sans le frère, elle est mutique. Donc, du coup, toute la communauté paysanne se demande ce qui s'est passé, parce qu'il y avait une grande solidarité à l'époque. La sœur dit c'est un tel, le fils de la voisine qui nous a attaqué. Du coup, lynchage. Enfin, ça part vraiment en violence. Mais attention, il y a aucune scène très crue là-dedans. Mais toujours est-il que l'auteur part en fait du dernier pendu des États-Unis, c'était au Kentucky en 1936. Et il tricote quelque chose là-dessus qui est assez, assez remarquable. Donc, il y a cette histoire qui se passe en 1936. Ça se chevauche avec 1952, où là, on a la suite de la famille. Donc, il y a aussi des histoires de famille, des histoires de querelles de voisinage. Et en 1952, il y a encore deux sœurs. Et il y a une tante qui doit revenir et le fils de cette famille qui doit également revenir. Bon, je ne me fais pas très bien comprendre.
On vous suit là.
C'est vrai. Ouais, c'est beaucoup plus simple dans le dans
le roman.
C'est pour ça que ces gens-là écrivent des romans et pas moi. Dieu m'en préserve. Donc entre 52 et 36, se sont passées 16 années. 16 années qui ont fait évoluer les différentes familles de ce comté du Kentucky. Il y a tout un décor autour de la plantation de tabac, parce qu'on sait qu'au Kentucky, c'est là où on...
C'est leur spécialité.
Ouais, c'est un peu la spécialité. Et là, il se trouve qu'en 52, le père a tout arraché pour planter de la lavande. Donc il y a toute une page qui se tourne, y compris sur le plan des superstitions, puisque la précédente Sarah avait une sorte de don maléfique. On présume qu'une de la famille a encore ce don. On voit un petit peu une sorte de modernité qui arrive aux États-Unis.
Mais pourquoi un don ? Elle prédit des choses ? Elle a un pouvoir de guérison ?
Exactement, c'est ce que vous avez dit. Elle a une sorte de pouvoir de Cassandre, c'est-à-dire qu'elle voit des choses. Et ce sont des coins très reculés. Par exemple, en 50...
C'est un peu flippant quand même. Hein.
Oui, il y a un côté gothique. Ouais. Un côté gothique, ça rappelle aussi Thomas H. Cook. Je crois que Stephen King a dit aussi que l'horreur, il l'avait impressionné. Je crois que c'est Stephen King qui avait dit ça dans son écriture. Il y a un côté, je dirais pas shiny, mais les Tommy Knockers, je ne me rappelle plus lesquels de Stephen King. Enfin, on sent qu'il y a quelque chose de fantastique. Par exemple, en 52, ils en sont encore, enfin, vous me direz peut-être que ce n'est pas les seuls, à planter des couleuvres autour de la maison, des couleuvres mortes pour éloigner le mauvais esprit.
D'accord.
Bon, rien que ça, moi, déjà, ça me fait flipper. Quoi. J'ai vu ça, c'est bizarre. Quoi.
Venez chez moi, Christophe.
Non, c'était bizarre. Enfin, il y a tout ce côté un petit peu gothique. Et aussi beaucoup de c'est la société
les
américaine.
Les gothiques, c'est pas les
oui, ouais,
les châteaux des Carpates.
Ouais, non mais il y a des gens avec des grandes gabardines.
Ouais, noires. Et des ongles noirs, oui. Et le teint blanc, elle est assez gothique.
Et il y a aussi tout un pan sur cette société profonde où on se marie en fonction des catégories sociales, où il est important de faire un bon mariage. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'il y a aussi une forte superstition, entre guillemets. C'est-à-dire que le jour de ses 15 ans et demi, ça je connaissais pas du tout, ça doit être vrai, hein, le jour de ses 15 ans et demi, chaque fille du Kentucky va se pencher sur un puits et doit y voir le reflet de son futur mari. Donc vous voyez, il y a beaucoup de croyances, de superstitions. C'est, je dirais pas avéré, c'est pas du tout le cas, hein, parce que ce sont des
croyances.
Oui, non, mais ouais. Des communautés assez proches de la terre. Et ça fait comme un parfum un petit peu de je sais pas de pas de sorcellerie, mais il y a un côté un peu malsain, bizarre quoi. Très bizarre, très très bizarre à la fin du roman. Et tout ça se...
Mais ça finit pas en queue de poisson.
Non, pas du tout, pas du tout. Mais ce qui est important, c'est tout ce qui est rivalité de voisinage, rivalité à l'intérieur
des
familles.
Et on s'y perd pas avec tous ces personnages ?
Non,
ça va ?
Non, on s'y perd pas, c'est toujours pareil. Vous mettez 30-40 lignes, ou 30-40 pages plutôt, à vous demander qui est qui, puis après ça roule tout seul. Surtout, c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien traduit.
Vous avez sélectionné un extrait ?
Avant de venir, j'ai pas sélectionné un extrait, mais un extrait. Pourquoi je dis extrait ?
Ça, c'est depuis que vous êtes en Corse. Vous dites slip et extrait.
Étiquette.
Et cité aussi.
Alors, je vais vous prendre celui-là. Juna, Juna est belle de visage et marque les esprits avec ses yeux noirs. Mais elle a le corps dur à force de passer ses journées à cueillir des baies, à couper du bois ou arracher les fleurs des plants de tabac. Je suis la plus douce de nous deux. Papa l'a toujours dit. Un homme a envie d'une femme sur laquelle il puisse appuyer sa tête. Une femme qui lui caressera les cheveux et lui dira qu'il est un homme bien, qui fait des choses bien et qui fait bien les choses. Une femme à la peau chaude quand elle s'étend près de lui le soir, mais qui ne reste pas devant lui quand le soleil se lève. Je suis tout ça, moi. Mais Élise n'en aura jamais conscience puisque Joseph Karl sera pendu à l'aube. J'ai décidé de l'endroit où j'irai et de ce que j'y ferai longtemps avant de m'éclipser à l'insu de papa et Juna. Depuis que j'ai commencé à désirer un homme, mon choix s'est porté sur Élise Bain. Il possède tout un tas de connaissances. Il sait comment brûler ses champs pour y planter son tabac et comment jauger la qualité de la terre en la reniflant et en la frottant entre ses doigts. Il sait quand la pluie viendra et laissera le sol à ses meubles pour y repiquer ses tendres semis. Il ne se renie pas avec les autres et ne discute pas avec eux de ce qu'il est préférable de faire ou pas. Il le sait toujours. Il le sait parce qu'il ressent quelque chose de puissant en lui lorsqu'il se pose au milieu de ses champs.
J'adore.
Oui, c'est pour ça aussi. Qu'est-ce que l'homme parfait pour elle. Celui qui sait prédire quand il y aura de la pluie. Chacun son truc.
Mais moi, ça me plaît la façon dont
c'est écrit.
Moi, ça me plaît beaucoup la façon dont c'est écrit. Hein. Oh là là, c'est très beau. J'irai mourir sur vos terres, Laurie Roy, aux éditions du Masque. Merci pour cette.
Prix Edgar,
pour la deuxième fois.
Hein, oui, puisqu'elle l'avait eu. Pour le premier roman et.
J'ai bien envie de la découvrir, celle-ci. Laurie Roy, donc une femme qui écrit pour les hommes. Ah, je plaisante, j'arrête de vous taquiner. Et merci beaucoup pour cette découverte, Christophe.
Saltare i nostri luoghi, i mori, i guerrieri, tu manda piccendo voghi, fotora realtà, immorti quantità, e sbarcato un mare da marinda, suminendo l'udoro, sciaura e porruina, paesi stirpati e riduti in pulvina, andati in galera e senza pietà, noi altri sull'ani senza bontà. So galeriano, so galeriano, un posto che buca. So galeriano, so galeriano, e la mia vita va. Sale che mi bruciano sano con i miei fratelli e per me campa tre cucero ma poco c'è da sperare l'ugore in petto si strigna con mattinaglia pensando a me patria e alla me famiglia ma contenti insieme così senza niente. Piglia forse il coraggio di buca. So galeriano, un posto che buca. So galeriano, e la mia vita. So galeriano, un posto che buca. So galeriano, e la mia vita va. E la mia vita va.
Et 37 minutes sur RCFM. Merci d'être avec nous. Vous écoutez des livres et des lires. Bernadette.
Oui, Marie.
Vous avez choisi pour nous le livre suivant, La Chef, le roman d'une cuisinière, signé Marie Ndiaye, que j'aime beaucoup. Beaucoup cet auteur.
Et alors nous sommes deux.
Ah, très bien.
Autour de cette table.
En tous les cas. Peut-être plus ailleurs, je lui souhaite.
Donc, La Chef, roman d'une cuisinière, comme son titre l'indique, c'est l'histoire d'une cuisinière, comment dirais-je, une cuisinière qui...
Passionnée.
passionné et qui a appris la cuisine de façon tout à fait empirique, en essayant. Donc c'est l'histoire, on ne sait pas son prénom, on ne sait rien de cette femme, elle est très très discrète sur sa vie, et c'est son second qui la raconte. Donc cette femme qui naît dans une famille pauvre de Sainte-Bazeille, dans le sud-ouest de la France, et qui rentre très jeune, à 14 ou 15 ans, comme bonne chez des bourgeois. Et un jour, la cuisinière...
Chez Jean-Marie Roy.
Voilà, ça pourrait...
Les Richonnes.
C'est elle. Mais là, ça n'est pas un emploi fictif fourni par la République.
Pardon.
Donc, la cuisinière en titre est obligée de s'absenter pour des raisons familiales et on lui demande de la remplacer. Donc c'est là qu'elle se découvre cette passion pour la cuisine. Et elle arrivera à ouvrir un restaurant. Elle quitte tout du jour au lendemain. Elle part avec sa fille, dont on ne connaît pas le père, et son baluchon. Elle va à Bordeaux. Elle travaille d'abord dans un restaurant. Et elle arrive ensuite à louer un local où elle s'installe pour créer. Et quand elle cuisine, cette femme, c'est vraiment un geste spirituel. C'est inouï. Donc, elle va connaître le succès, elle va avoir une étoile au Michelin, donc le restaurant est très couru, toute la bourgeoisie bordelaise va s'y précipiter. Et puis, un jour, c'est la chute. C'est la chute parce que sa fille veut en faire un restaurant comme les autres, et ça ne marche plus. Donc voilà, le roman d'une cuisinière, brièvement résumé.
Mais donc, sa fille ne la quitte pas, elle bosse avec elle et elle...
Oui, il y a de l'amour. Il y a de l'amour de ce second de cuisine qui, en fait, est un amoureux.
C'est pas du tout ma question. Ne répondez pas aux questions écrites de Christophe Laurent.
Oui, il y a beaucoup d'amour. Bon, et puis, il y a surtout beaucoup d'amour pour ce qu'elle fait.
Bon. La fille la suit depuis le départ?
Non, la fille s'en va, revient. D'accord. Et quand elle revient, elle décide de prendre les choses en main et de banaliser totalement ce restaurant.
Est-ce que c'est tiré, je sais pas moi, d'une histoire vraie? On le sait pas.
On sait pas.
On n'a pas les...
Par contre, ce roman a une particularité, il est d'une seule pièce, c'est-à-dire qu'il n'a pas de chapitre.
Ah oui.
D'accord.
Moi je fais ça toujours quand je le lis, quand est-ce que c'est le prochain chapitre, est-ce que ça va changer de personnage? C'est pas ça vous?
Si, je fais un peu ça. Ouais.
Et ben voilà. Bon, donc ben là, il n'y a pas de chapitre, tu es obligé d'aller jusqu'au bout.
Vous avez sélectionné un extrait?
Oui, j'ai sélectionné un petit extrait. Bon, donc.
Moi, j'aime beaucoup Marianne Diaye.
Elle en vint ainsi à proposer une cuisine extrêmement réfléchie, hautement raffinée, dans son aspect, dans ses modes de cuisson et de préparation, pensée précisément pour abolir tout souvenir d'application, de contrainte, de durée exigeante. Une cuisine que pratiquement quiconque pouvait toutefois approcher sans en rien savoir, sans en attendre autre chose que la satiété. Elle trouvait excessives les louanges dont on s'est mis à couvrir sa cuisine. Elle comprenait les sensations puisqu'elle s'appliquait à les faire naître, n'est-ce pas, et que leur manifestation sur la figure des convives l'enchantait. C'est tout de même bien à ce quoi elle s'évertuait jour après jour, depuis tant d'années, presque sans repos.
Ouais, ça finit mal ou pas? Bon, il ne faut pas le dire, il ne faut pas se plaindre.
Est-ce que ça met l'eau à la bouche?
Oui.
Oui, quand même, non?
Oui.
Bon, ben oui, quand même, si elle parle de...
Je ne vous pose pas la question.
Pardon,
vous n'avez pas lu.
Même pas lu.
C'est incroyable. J'essaie de me rabibocher avec Bernadette.
Vous faites ça en privé.
Vous faites le lèche-botte, ouais, surtout. Est-ce que ça met l'eau à la bouche, franchement? Enfin, c'est l'histoire d'une chef qui progresse et qui gagne une étoile. Forcément, on parle.
Il n'y a pas de recette de cuisine.
Ouais.
Et qui pensait dans le.
Bon, mais c'est un sujet dont on a beaucoup parlé dans la presse, l'histoire de ces fameuses étoiles, le Graal qui peut tout d'un coup vous être retiré, et on sait que pour certains c'est arrivé jusqu'au drame malheureusement. Et je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant, et je sais pas si c'est le thème aussi, hein, c'est-à-dire accéder à l'inaccessible étoile pour finalement chuter, c'est-à-dire... et gérer cette
Elle, non, c'est pas son truc, avoir des étoiles, c'est pas son truc. Elle, son truc, c'est continuer
dans sa cuisine, accueillir
les gens. Elle ne veut pas de réservation, elle ne prend pas de réservation jusqu'au jour où sa fille décide.
Mais ça l'intrigue. Va pas forcément la déstabiliser, c'est la fille qui va...
C'est l'intrigue, en fait, la fille, c'est...
Ça ne va pas la déstabiliser, non.
Parce que ce n'est pas qu'une biographie, en fait.
C'est pas une biographie.
D'accord, non, mais comment...
C'est pas du tout une biographie.
Non, mais comment dire, le...
Ça n'est pas que l'histoire de cette fille.
Voilà, le point central, c'est la fille qui...
Non. Le point central, c'est la mère. Et cette fille, un peu entourée de mystères, parce qu'on ne sait pas avec qui elle a eu cette fille. Les rapports ne sont pas très, très...
Chaleureux
entre la mère et la fille. La fille s'en va vivre au Canada et c'est quand, lorsqu'elle revient qu'elle...
Donc il y a une relation mère-fille qui est aussi importante.
Voilà, qui est un peu conflictuelle.
Mais du coup... parce que, enfin, j'imagine, j'ai pas lu une seule ligne, mais la façon dont vous nous le présentez, on imagine une ascension comme ça, assez lente et merveilleuse, inattendue, puisque c'est pas du tout ce qu'elle désirait. Donc, ça va être d'une extrême violence, cette histoire
Elle désirait faire la cuisine. Hein. C'est quelque chose qu'elle a toujours eu en elle.
Mais elle désirait pas cette ascension.
Elle désirait cuisiner, faire plaisir, en fait, voilà.
Et vous nous disiez que c'était assez spirituel et assez. Donc, du coup, oh là là, mais c'est pas possible, les commentaires de Christophe Laurent à l'écrit. Mais allez-y, assumez ce n'est pas un navet, point d'interrogation, nous demande-t-il. Oui, du coup,
mais
ça doit être...
Aujourd'hui, tu vas pas nous en faire un flan.
Allez, ça s'arrête plus. Non, mais du coup, cette ascension lente et merveilleuse et très spirituelle, cette relation donc à la cuisine,
à la
qui est comme un art pour elle, à la nourriture, d'un coup, ça va être extrêmement violent dans le bouquin, j'imagine, l'arrivée de cette fille qui veut tout chambouler.
Oui, tout à fait, c'est très violent. Mais on n'en dira pas plus.
On n'en dira pas plus.
La cuisine, c'est très littéraire. Quand même.
La chef de Zefe.
Oui.
Ah.
C'était pas inintéressant.
La chef, le roman d'une cuisinière, Marie Ndiaye. Vous disiez, pardon, Christophe.
Je disais que la cuisine, c'est quand même extrêmement littéraire comme activité. Voilà, c'est tout.
Mais c'est, ou musical. On suit une partition, non? Le piano, il y a un vocabulaire très.
En termes de mots, de sensations.
Voilà. Allez. Nous allons parler d'un autre livre dans un instant. C'est un livre que, nous regardions toutes et tous. Nous avions envie de le lire. Et c'est Bénédicte qui a décroché le pompon. Ça s'appelle Dans la forêt. Et c'est signé
Jean Hegland.
Jean Hegland. Non. sommes en 2017 et je vous assure que pendant les chansons, on entend des choses incroyables. Les hommes cuisinent mieux que les femmes.
C'est comme ça.
C'est de la littérature pour femmes. Et en plus, dans la bouche d'une femme.
Bah oui.
Ah bah de mieux en mieux. Alors, vous nous parlez d'un livre pour les hommes, dans la forêt.
Alors, écoutez, je vous parle d'un livre écrit par une femme, dont les deux personnages principaux sont deux jeunes femmes.
Jean Hegland.
Oui, Jean Hegland. Alors en fait, c'est son premier roman, mais qu'elle a écrit en 1996.
C'est chez Gallmeister.
C'est chez Gallmeister. Mm-hmm. Qui fut un succès considérable aux États-Unis à cette époque, mais il vient juste d'être traduit, en février, il vient de sortir cette année. Donc c'est un roman apocalyptique, hein, puisque le monde est en train de se déliter, les sens disparaissent, les vivres disparaissent, il n'y a plus d'électricité, il y a des maladies mortelles qui...
On en a lu beaucoup sur le sujet.
Oui, voilà, il y en a énormément. Mais en fait, on sait très peu de choses et on en saura très peu tout au long du roman. Donc, ce n'est pas le roman apocalyptique classique. Hein. Et donc, au milieu de ce chaos, il y a deux sœurs, Nell et Eva, qui ont 17 et 18 ans, et qui vont devoir donc, se débrouiller comme elles peuvent dans leur maison, qui est déjà en plus très loin de la ville, justement à l'orée à la lisière d'une forêt. Et elles se retrouvent livrées à elles-mêmes parce que leurs deux parents sont morts. Et avant, et le récit donc est pris en charge. C'est un journal intime que rédige la sœur aînée Nell. Donc, il y a clairement deux temps, j'allais dire, dans ce roman, c'est-à-dire que dans un premier temps, ces deux jeunes filles ne vont pas vouloir abandonner leurs rêves et leurs projets. La plus jeune sœur était destinée vraisemblablement à une grande carrière de danseuse, donc elle va continuer au seul rythme de son métronome, par exemple, à danser dans la pièce qu'on lui avait aménagée.
L'autre... Parce qu'elle ne réalise pas ou parce que c'est
parce
une
que
défense
c'est un moyen de résister, ouais, c'est d'accord. leur moyen de résistance. La deuxième sœur, elle venait d'apprendre qu'elle était acceptée à Harvard, ce qui était son rêve absolu, parce que les parents un peu originaux les avaient déscolarisées, elles n'ont jamais été à l'école, et elles ont tout d'un coup, parce qu'elles ont 17 et 18 ans, elles découvrent quand même le merveilleux monde de l'adolescence, et elles sont finalement des adolescentes comme les autres, et elles ont envie un petit peu de se réintégrer à cette société.
Déscolariser vos enfants pour qu'ils fassent des études.
Et ils intègrent Harvard. Mais dans tout ce premier temps, j'allais dire, du roman, il y a le passé qui est constamment là, qui hante le présent. C'est-à-dire que la moindre chose va leur rappeler la vie d'avant, va leur rappeler un souvenir de leur père, un souvenir de leur mère. Et là, il y a vraiment des moments, j'ai envie de dire, lumineux, quand par la seule force de la pensée, elles vont arriver à faire revivre, d'une certaine façon, ces moments-là. Ça, c'est très, très beau. Et après, il y a le deuxième temps, très différent, où c'est celui, finalement, de l'acceptation, de la résignation. Elles se disent que peut-être les choses ne redeviendront peut-être plus jamais comme avant, qu'elles sont peut-être une des rares survivantes de cette catastrophe. Et donc là, elles vont devoir se débrouiller avec ce que la nature leur offre. Et là, elles deviennent des sortes de Robinson Crusoe. C'est-à-dire que la nature est à leur fois leur pire ennemi, parce qu'elle regorge de dangers, et en même temps leur seul allié. Hein. Elles vont apprendre à devoir...
Ça, j'aime bien, moi.
Alors voilà, ouais. Moi, je trouve que c'est un roman très réussi. Je vous cache pas que dans les 60 dernières pages, quand à un moment donné, voilà, la collecte du gland en milieu hostile, etc., la complexité... Non, mais c'est vrai, parce que pour faire la farine...
Si on avait parlé d'amour...
Ça m'a un petit peu fatiguée.
Non, mais ce matin, c'est n'importe quoi, cette émission.
Attendez, le gland qu'on va presser, etc. Non, il y a tout un truc pour faire de la farine, parce qu'elles n'ont plus de farine.
Bon, avec le chêne.
Ah, écoutez, moi, j'en sais rien, j'ai lu ça.
Oui, le gland, c'est le chêne.
Bah oui, à un moment donné, elles vont le faire sécher.
C'est le fruit du chêne,
etc. Oui, non. Et après, elles vont faire comme elles peuvent.
Il a quand même dit, c'est donc il y a de l'amour. Pardon.
Non, parce que je prends cet exemple parce qu'il est très, 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 très développé. Donc, si vous voulez, on rentre dans la partie aussi plus engagée du roman. Et ça, c'est typique du nature writing, hein, ses origines. Hein, bah non,
pardon.
Où il y a toute une réflexion sur la civilisation, sur le rapport nature-culture, sans que ce soit didactique. Hein, c'est jamais plombant ou moralisateur, absolument pas. Il y a une petite dimension aussi écologique. Hein, et finalement, on est devenu complètement tributaire de cette électricité qui, somme toute, est très récente. Bon, après, ce qui est très beau, c'est quand même la force de l'amour entre ces deux sœurs qui vont coûte que coûte vouloir survivre. Et il y a comme ça, dans ce roman qui est quand même assez sombre, hein, une énergie vitale capitale qui est saisissante. Hein. Et c'est un beau roman. Alors, il a été adapté en 2016 au cinéma. Je ne sais pas ce que ça donne. Je ne sais pas si vous
avez vu. Avec le même titre ?
Oui, oui. Alors, c'est le titre anglais, Into the Forest. Voilà.
Donc, d'accord. Même pas entendu parler.
Oui, apparemment, bon, ça
n'a pas l'air... Il est déjà sorti.
Oui, il est sorti en 2016. Donc voilà, un récit de survie qui nous met en garde un petit peu contre notre aveuglement, réfléchit sur la survie de l'humanité. Et en même temps, c'est une célébration de la nature, de l'amour.
Qui est cet auteur, Bénédicte ?
Jean Egland, alors très connue. Elle a sorti plein d'autres romans depuis. Hein. Ça, c'était son premier roman, donc il date de 96. Et roman culte aux États-Unis, hein, de ses romans, c'est vrai, post-apocalyptique, comme ils aiment bien. Mais c'est vrai que ce que je trouve intéressant, c'est que ce soit deux femmes. Parce que dans les romans apocalyptiques, c'est rarement des femmes les personnages principaux. Et là, c'est des jeunes femmes qui vont déployer des trésors d'inventivité pour survivre, trouver une force qu'elles ne soupçonnaient pas.
C'est le nord des États-Unis.
Je ne sais même plus où ça se passe. Ouais. Je ne sais pas si on nous le dit. Je crois que... Voilà.
Ce n'est pas très important, apparemment.
Non, puisque finalement, on est au milieu de nulle part. Hein. On est au milieu. Si, pourtant, à un moment, ils nous disent, hein, ils sont à 50 km, mais j'ai oublié le nom de la ville. Hein. Donc,
moi, j'aime bien chercher quand je ne connais pas, je vais sur...
Ah non, moi, j'ai aucune curiosité géographique. Ah bon, voilà. Non.
Je cherche déjà si ça existe en général.
Ça existe, j'en suis certaine, parce qu'après, ils font référence. Ouais, la ville, je crois que j'ai quand même cherché, la ville existe, ça c'est sûr. Voilà, donc c'est un beau roman aussi sur la résistance, la révolte et la volonté de survivre à tout prix, même dans la
plus extrême.
Il y a
d'autres humains qui.
Vous voulez une petite citation ? Parce qu'on nous l'envoie. La patrie d'une cochonne est partout où il y a du gland. Signé Fénelon. Quelle citation.
Non, bon, moi je vous livre ça comme c'était.
Elle y arrive.
Comment me mettre mal à l'aise? Attendez.
Qui? Ben, à votre avis. C'est notre auditeur. Non,
j'avais une question
secret.
Beaucoup plus. Il y a d'autres
Jean-Christophe
humains,
Thomas,
qui sont encore en vie,
pour ne pas le citer.
Alors.
On ne sait pas.
Il y en a très peu. Enfin non, on ne sait pas, mais il y a un moment donné, elles vont quand même croiser le chemin de deux autres êtres vivants, deux autres humains. Mais comme elles vivent très très loin, qu'elles n'ont plus d'essence, etc., elles vivent vraiment toutes seules dans cette forêt. Et les seuls. Alors il y a plein d'autres personnages, mais ce sont ceux de leur
souvenir. Parce qu'en général, dans les récits apocalyptiques comme ça, il y a toujours des bandes de pillards.
Eh ben ouais, mais là pas du tout. D'accord. On suppose elles en ont peur, mais vivent dans le voilà, elles en ont peur parce qu'elles se disent voilà, s'il y en a d'autres qui
comme ça, des
l'état sauvage,
c'est jamais sans violence.
Ça s'appelle donc Dans la forêt, c'est paru chez Gallmeister et c'est signé Jean Egland. Et justement, on avait très envie de le lire. Et pour une fois, on avait été bien inspiré puisque c'est un bon roman. D'après ce que vous nous dites, Bénédicte, vous conseillez aussi Des hommes sans femmes de Haruki Murakami. Vous nous conseillez Bernadette.
La chef, le roman d'une cuisinière de Marie Ndiaye.
Ainsi que Des hommes
chez
sans
Gallimard,
femmes.
Je précise.
Ah oui, puisque... publié chez Gallimard, on l'a pas dit. Et vous, Christophe Laurent, vous nous conseillez le Laurie Roy, J'irai mourir sur vos terres, publié chez Belfond, qui a obtenu le prix.
Non, pas Belfond, le masque.
Le masque, qui est, c'est le Haruki Murakami, pardon, qui a été publié chez Belfond. J'irai mourir sur vos terres, donc publié aux éditions du Masque, qui a reçu le prix Edgar du meilleur roman. Merci beaucoup à tous les trois.
Super émission.
Et à la semaine prochaine pour une autre équipe.
Bonne journée.